Alors, donc maintenant, dans ce sens-là, on va passer à Sunga Kim. Sunga Kim est scénographe et docteur en esthétique, sciences et technologies des arts à Paris 8. Ses recherches reposent sur l'étude de la réception et spectatorielle des liens scène-salle qui régissent les pratiques performatives et de l'acte du regard dans le contexte du théâtre contemporain et de la société numérique. Elle a notamment publié dans l'ouvrage L'acteur face aux écrans, corps et scène, dirigé par Josette Ferral, dans la revue Appareil, dirigée par Sophie Aurore-Roussel, ainsi que dans la revue Notos. Et elle va présenter une communication nommée Avoir lieu sans lieu, délocaliser les théâtres pour toucher l'intime.
Merci Ariana. J'en profite avant de commencer tout d'abord pour vous remercier les organisateurs Nathalie et Julien et pour cette super journée intéressante. Et puis aussi pour les modérateurs, toutes les personnes, des membres de comité et les intervenants qui présentent jusqu'ici, qui présentent des sujets très divers. Et qui me donne des réflexions, et des inspirations. Aujourd'hui, je me présente devant vous pour vous parler plus précisément de certaines formes alternatives de création théâtrale, de petites formes intimistes pensées pour un ou deux spectateurs en maximum, qui ont de ce fait existé presque par hasard. Et sans forcément volontaire de le faire pendant la crise sanitaire. Bon. La scène sans verbe, sans écrit, sans art, sans être humain, sans être vivant même, ou encore le théâtre sans scène, sans salle, sans art. L'absence dans une création théâtrale est souvent une accentuation volontaire. Mais s'il est un paramètre dont il semble impossible de faire abstraction, c'est le lieu de la représentation. Quel qu'il soit fixe et entouré de murs ou changeant et mobile, il contribue à la définition de la forme. Et lorsqu'il s'agit de faire son choix parmi l'infinie variabilité des formes de la représentation théâtrale, il est nécessaire de passer par une recherche visant à modéler un lieu, par une réflexion sur sa construction, et la manière dont il pourra laisser voir et se voir percevoir. Le lieu théâtral s'est depuis longtemps désolidarisé de l'espace prédéterminé et dédié à la position des spectateurs qui presque à tous une immobilité semblable, encore domestiquée pour reprendre l'expression de Serge Proust. Sorti du lieu, c'est donner la possibilité de repenser à partir de zéro le couple regardant-regarder, le localiser dans un nouvel espace comme si l'on faisait un état des lieux à chaque représentation. Et comme censé dans un lieu en pause de prendre en considération ce qu'il a dit, un renversement de point de vue pour être opéré. Mettre en scène devient mettre en salle, dans ce cas, et l'intérêt se concentre sur le spectateur, sur son quotidien et ses préoccupations. La scène prend forme autour de la singularité du rapport que le spectateur entretient avec elle, et l'expérience spectatorielle définit les modalités d'une rencontre de proximité dont le sujet dramatique sera taillé sur mesure. Cette tendance est devenue plus visible encore et s'est même paradoxalement accentuée lorsqu'elle a coïncidé avec la fermeture des salles de spectacle du fait des contraintes sanitaires qui ont obligé les artistes à créer un théâtre autrement. Face aux annulations à répétition, la recherche de modalités alternatives s'est soudainement imposée à chacun. L'interdiction des rassemblements a rendu impossible la collectivité rituelle du théâtre, habituellement source d'égrégores et d'échanges émotionnels, entraînant dans l'urgence la démocratisation de ce type de dispositif singulier au risque d'affaiblissement de le processus de réflexion précédant leur conception. Pardon. La crise a donc à la fois permis la diffusion de ce genre de dispositif, mais a également pu avoir comme effet de faire passer certaines expériences visant une forme de théâtralité véritablement autre pour des solutions de repli imaginées à la va-vite. Ce n'est pas le cas de Dog Quiet Volume de Anne Hantham et Tim Hetchell, imaginé et créé en 2010 selon un dispositif d'autothéâtre, un théâtre autogénéré reposant sur la seule participation de spectateurs non préparés. Celui-ci se déroule autour d'une table dans la salle de lecture d'une bibliothèque durant les horaires d'ouverture habituels, comme un événement théâtral cassé dans le quotidien. Deux participants assis côte à côte font parallèlement une lecture silencieuse, parfois solitaire et individuelle, et parfois commune et interactive, guidée par des instructions vocales chuchotées dans un casque audio et notées dans des carnets. L'on pointe du doigt un mot ou une image, ou souligne une phrase, l'autre regarde et le suit. Le lieu de représentation imposé ici est le livre, de sa matérialité à son contenu littéraire, les lettres emboîtées dans le rectangle de la page blanche, les mots surgissant aux yeux de l'un lorsqu'ils sont mis en évidence par l'autre, le regard, l'attention et l'imagination de chacun se croisant et se partageant sans cesse. L'isolement des participants est progressif depuis leur entrée dans la bibliothèque jusqu'à l'ouverture d'un livre qui les prolongera dans un univers abstrait, coupé du réel et théâtralisé par le van narratif composé des chuchotements et des bruits diffusés dans le casque. Cette démarche permet de transformer une expérience spécifiquement solitaire en une expérience commune, faisant du livre un théâtre portable, selon les mots du metteur en scène, une version compressée et codifiée à la fois de la boîte noire du théâtre et du cube blanc de la galerie, aplati en carré blanc et ligne noire, mais qui, à mesure que l'expérience prend forme, commence à s'éteindre et à gagner en volume. Les éléments participant à l'instauration d'un climat intimiste sont nombreux. Déjà, premièrement, le casque isole de l'environnement du lieu public. Ensuite, les phrases prononcées par les voix instrumentalisées dirigent les yeux des participants vers les mêmes mots et des pensées similaires. Et aussi, leur geste contrôlait les lits dans une même situation, tout cela créant une solidarité qui les rend complices d'un repli volontaire. Les instruments chuchotés sont autant de déclencheurs d'un isolement en commun qui, d'une part, maintient la distance nécessaire à une perception individuelle, et d'autre part, associe les regards en un geste participatif. Dans Radio Doléance, créé en 2019 de Zeka Collective, un acteur, une artiste jouant le rôle d'un journaliste anime une fausse émission de radio intitulée L'avenir des présents, dont l'invité et le spectateur interviewés sur des sujets politiques et sociaux. Dans une obscurité ambiante, autour d'une table nappée de noir et éclairée par une simple lampe de bureau, spectateur et son interlocuteur s'expriment dans un micro et portent tout doux un casque qui leur transmet leur propre voix. Si dans Dog Quiet Volume, l'intimité repose sur le partage d'un voyage prédéterminé à l'oral et à l'écrit, s'établit ici dans Radio Doléance par l'échange de réflexions personnelles lors d'une conversation voulue la plus franche possible. En effet, l'artiste qui joue le journaliste ici est engagé dans l'échange sur un pied d'égalité avec le spectateur, confiant ses pensées propres et répondant lui aussi sincèrement aux questions posées lors de l'émission. Ces questions sont inspirées des réflexions du sociologue Bruno Latour autour de la possible rédaction de nouveaux cahiers de doléances au moment de la crise des Gilets jaunes, avec comme idée principale la restauration d'un dialogue entre deux parties ne sachant plus ni s'exprimer ni s'écouter. Au départ, centré autour de la connaissance du territoire sociopolitique et de ses enjeux, elles ont été retranscrites pour le dispositif de Zika collective sur le territoire intérieur. Je vais vous faire écouter un petit extrait de spectacle. Dans ce contexte, la découverte de l'autre et de soi l'introspection amenée par les questions et leurs réponses deviennent elles-mêmes le contenu dramatique. Donc, le matériau exclusif sera fait des confidences de chaque interlocuteur. En effet, Miwa est recherché non seulement par la disposition physique en face à face de l'acteur et du spectateur isolé dans un îlot lumière, mais aussi dans la manière de mener la conversation, l'acteur répondant toujours en première pour montrer l'exemple et mettre le spectateur en confiance. Dans un registre différent des deux exemples traités jusqu'ici, l'événement théâtral dans Boîte Noire, théâtre fantôme pour une personne de Rimini Protocol, créé en 2020, se déroule à l'intérieur du théâtre, mais le lieu n'en est pas moins remis en question. Cette création est née du croisement de deux situations indépendantes, mais liées dans leurs conséquences. Premièrement, les mesures de restriction sanitaire et aussi la longue fermeture du théâtre Vidier à Lausanne, en précision d'une rénovation importante, bien que la représentation a ensuite été transposée dans d'autres théâtres. Ces conditions permettent, comme le précise Stéphane Kegui, ce qu'aucun théâtre ne pourrait se permettre autrement, à savoir ne jouer que pour une personne et la laisser s'aventurer dans le labyrinthe d'une machine de physique. Le spectateur solitaire est équipé d'un casque audio dans lequel sont diffusés des sons environnementaux du théâtre. Une présentation des lieux et des réflexions philosophiques ou des commentaires. Il visite des endroits dont l'accès lui est d'ordinaire interdit, l'arrière-scène, les couloirs, les loges, les bureaux ou les salles de repos, etc. Ce sont des lieux dissimulés et souvent mystérieux. La scène dans cet événement s'établit et se renouvelle à chaque station dans le théâtre entier et apparaît de manière mouvante et linéaire sur les yeux du spectateur qui expérimente un pèlerinage dans ce théâtre dépeuplé. Les autres spectateurs aperçus au loin durant le parcours ne sont que des silhouettes silencieuses, fantomatiques et reconduites dans ce théâtre vide, se suivant ou se précédant sans interaction ni aucune présence pour les accompagner que les voix qui leur parlent dans le casque. Bien que se déroulant dans le théâtre, ce qui est délocalisé dans cette expérience, c'est le rapport entre le spectateur et le théâtre lui-même devenu le sujet dramatique. Le spectateur entre en contact du fait de son voyage avec ce dont on lui parle. Il peut le toucher du doigt, se concentrer sur chaque aspect, comme s'il observait à travers une loupe, s'approprier chaque scène en tant que seul protagoniste. Cette fois-ci, l'intimité se crée par cette proximité et par le réveil des souvenirs du théâtre via le spectateur. Le théâtre n'est plus un lieu matériel, mais un personnage que chaque spectateur découvre à travers les yeux de toutes les personnes qu'il a visitées jusqu'ici. Cette visite repose autant sur l'audition que sur le toucher, donc, qui sont source d'une reconnaissance entre le spectateur présent et les travailleurs du théâtre passé séparés en temps normal par la scène. Comme l'évoque à nouveau Stéphane Kegui, les salles résonnent encore de ces moments qui ont connecté les spectateurs, des tempêtes d'émotions, de rires, des âmes et d'applaudissements. Ce sont les expériences personnelles du spectateur qui lui fait revivre ces moments théâtraux dans cet espace vide, sans recours à des matériaux spectaculaires. On constate donc à travers ces trois expériences qu'au-delà de maintenir une activité en période de crise, ce sont ces petites formes permettent, ce sont des rencontres de proximité qui reposent sur une somme de micro-partage, abolissant la frontière entre celui qui fait et celui qui voit. Le théâtre, aussi relocalisé au centre d'un espace relationnel, donne naissance à un théâtre partout, personnel et sans séparation nette entre la scène et la salle, ni parfois entre la fiction et la réalité. Une collectivité instantanée du regard aux participants, pour reprendre les mots Nicolas Bourdieu. C'est à partir de soi et non à partir du lieu que s'y développe la théâtralité. Lors d'expériences qu'il ne suffit plus de regarder en face, mais dans lesquelles le spectateur est invité à vivre à l'instant exclusif, sur le mode du partage et de la rencontre authentique de soi et de l'autre. Il est d'autre part important de noter la pertinence de telles propositions lorsque la plupart des alternatives imaginées pour pallier aux risques sanitaires reposent sur le numérique et le tout à distance pour préserver une forme d'être ensemble. Au contraire, et de manière complémentaire, cette délocalisation du théâtre, cette atomisation qu'il émet à l'échelle du tout petit nombre et l'inclut dans l'aspect individuel, c'est peut-être un moyen de laisser une chance au réel de résister, quelle que soit la situation. Mais c'est aussi et surtout la preuve que le théâtre reste un art vivant, dont les évolutions qui lui permettent de s'adapter même au pire. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Sunga. C'était passionnant aussi, tous ces exemples d'intimité artistique à devenir presque une œuvre pharaonique. Effectivement, c'est un privilège de pouvoir être seul dans un théâtre pour pouvoir en profiter de cet espace. C'est quelque chose qui est assez unique. Et en même temps, on voit aussi cette porosité entre le théâtre et le musée ou l'espace d'exposition, en fait. Merci beaucoup.
Merci.
Alors,